m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. C'est un film plein d'humanité qui nous emmène à travers des personnages attachants et complexes au cœur des revendications, des espoirs et des déceptions de la jeunesse haïtienne. Que signifie être haïtien aujourd'hui? Quelle place pour le français et le créole? Faut-il renier ou dépasser l'héritage colonial? Faut-il rester et tenter de s'en sortir? Et si oui, comment? Ou faut-il partir et tenter de rallier un Eldorado plus ou moins lointain? Toutes ces questions, Jessica Généus les pose et les expose dans Freda, son premier long métrage de fiction pour le cinéma. Il a déjà reçu la mention spéciale découverte du prix François Chalet lors du dernier festival de Cannes où il était en compétition dans la section Un certain regard. Il sort mercredi prochain sur les écrans français et vous m'en direz des nouvelles.
Freda! Les dimini genoux, où est-ce qu'on monte dans le travail?
Toute la sainte journée pour faire me guider, dit de me.
Quelles sont les séquelles qui handicapent cette nation?
Il n'y a pas qu'à manger, insécurité, balle à tirer sur lui, dans la tête, lui tout le temps.
Comme dans un moment, je vais vivre ça, je vais vivre ça. Je vais vivre ça, je vais me coucher la caille, je vais dormir.
Ou même pour prier bon Dieu, ou même pour le genou, qui a l'âge pour les voir à terre.
Mais qui est-ce qui zoom des besoins de rendre moi heureuse?
Mais écoutez, je n'ai tout comme ça, yo.
Comme taxe.
Pas des professeurs?
Non, car est dans mon coffre, Freda. Mais pour qui ça voulait être là?
Si on t'a suivi, ça quoi fait là?
Raconter histoire frère Dizel, c'est raconter histoire princesse ghetto, c'est raconter histoire Tissen qui grandit dans le système côté ses amours sans sommeil, n'est pas marcher vers le rêve.
Bonjour Jessica Généus.
Bonjour.
On l'entend dans la bande-annonce, il y a quelques passages en français, mais l'essentiel des dialogues sont en créole haïtien, bien sûr. Vous êtes posé la question ou c'était absolument évident pour vous?
Évident, parce que le créole haïtien, enfin, déjà dans le contexte qu'on est avec cette famille, on est quand même dans un quartier populaire, on n'est pas dans une famille un peu bourgeois.
On n'est pas à Pétionville,
dans les hauteurs de Port-au-Prince où la dynamique de vie est différente. Dans les quartiers populaires, ça parle créole principalement, bien évidemment. Ça n'exclut pas que ça peut arriver que le français arrive au moment où il doit arriver. Par exemple, on le voit dans le film, quand Freda va chercher du boulot, ben, il y a une posture, il faut parler, voilà, il faut se comporter correctement, entre guillemets, et voilà, ça change le rapport, oui.
Alors, c'est vrai que le créole nous permet à nous aussi, hein, pas forcément haïtiens, d'entrer dans la réalité, donc dans la vie quotidienne de ces quatre femmes qui sont vraiment les personnages principaux de l'histoire. Il y a la mère Jeannette, il y a les deux sœurs Freda et Esther, et il y a la cousine Géraldine. Alors, il y a aussi des personnages masculins, on va en dire un petit mot tout à l'heure, mais quand même, ils sont beaucoup plus en retrait à l'image, en tout cas. Ils jouent un rôle majeur dans la narration, mais ils sont en retrait à l'image. La focale, vous l'avez essentiellement tournée vers les personnages féminins. Ce film, c'est un hommage à la femme haïtienne?
Oui et non. Je pense plutôt miroir que hommage. Et bien sûr, il y a des moments où c'est une ode à leur combat, mais ça reste quand même un miroir pour ces femmes. Et je dis souvent que c'est un regard porté sur les femmes, pas en excluant les hommes, mais tout simplement parce que cette histoire, ça concerne les femmes. Et moi, comme je souhaitais quand même raconter quelque chose de viscéral, quelque chose, une histoire qui m'appartient un peu, j'ai grandi au milieu des femmes, j'ai grandi avec ma mère, tante, cousine, j'ai grandi avec des femmes comme celles qu'on voit dans Freda, exact. Donc, oui.
Mais miroir, disiez-vous, Jessica Généus, est-ce que ça veut dire que vos quatre personnages majeurs féminins sont des archétypes, c'est-à-dire qu'elles représentent pour l'ensemble, si on les prend dans leur ensemble, le quotidien des femmes en Haïti, de toutes les femmes en Haïti?
Ah oui, tout à fait. Oui. C'est une histoire qui n'appartient pas qu'à Freda ou qu'à moi ou voilà. Ça appartient vraiment à énormément de femmes en Haïti. Et j'ai même envie de dire un peu plus loin qu'Haïti, hein, parce que j'ai quand même voyagé un peu en Afrique de l'Ouest. Hein. des femmes en général, bien sûr, la couleur, la culture, le contexte de la société apportent des modifications qui sont particulières,
exactement.
Ou tu vois, le protestantisme, l'évangélisme, qui est très particulier à certaines sociétés. Mais j'ai l'impression que cette humanité, il y a des questions rapport mère-fille qui existent, qui peuvent résonner, à mon avis, à tout le monde, ouais. Alors, dans le cœur de tout le monde et dans l'esprit de tout le monde. Ouais.
Alors Freda est l'aînée, et comme sa sœur Esther, elle vit avec sa maman Jeannette. Les deux sœurs s'entendent bien, elles sont complices, elles se soutiennent, elles sont très proches. Et pourtant, elles ont deux façons radicalement différentes d'envisager l'avenir. Alors ça se voit dans leur comportement, mais ça se voit aussi dans de petits détails physiques. Par exemple, Freda est très fière de sa coupe afro, tandis qu'Esther, elle se lisse les cheveux, elle se blanchit la peau aussi. Alors ça peut paraître complètement anodin, et en fait pas du tout. Ce sont des détails, mais qui sont lourds de sens.
Lourds de sens, oui. Parce que déjà, le colorisme est très fort en Haïti, et c'est un thème ou c'est un sujet dont on parle pas souvent, parce que ça reste quand même tabou. Mais il y a une perception de différentes nuances de noir, et plus cette nuance tend vers une peau plus claire, plus il y a comme une appréciation. Souvent, les gens, des fois, dans la rue, ils disent « Toi, ta peau est propre. » Alors, voilà. Cette propreté...
Plus c'est foncé, plus c'est sale.
Exact.
Donc c'est
plus
pas
c'est
bien.
Foncé,
donc ça veut
plus...
dire que tu es des basses couches de la société,
exact,
et que tu n'as pas d'avenir.
Exact. Donc, il y a toute cette complexité où, des fois, même ma mère me l'a dit. Tu vois, elle m'a dit « Moi, j'ai essayé de te sauver quand tu étais dans mon ventre. J'ai bu des tisanes pour permettre que tu aies une peau plus claire que la mienne. » Parce que ma mère est très foncée de peau. Donc, c'est ça, ce rapport avec Jeannette. Ou... elle est, tu vois, elle est un peu dure avec Freda parce qu'elle se dit que toi, t'es pas partie pour avoir une vie facile.
Ah oui, avec tes cheveux crépus, tu as l'air d'une vendeuse de rue. Elle lui dit ça dans le film.
Exact. Mais le pire, c'est que Freda lui ressemble. Ça veut dire qu'elle est aussi foncée de peau. Ça veut dire que cette femme est dans cette dépréciation de, tu vois, de la couleur des cheveux de sa fille.
Elle a pas envie qu'il lui arrive la même chose qu'à elle, finalement.
Exact.
Ça.
Donc, c'est difficile de comprendre cet amour parce qu'on se dit qu'elle est dans cette violence par rapport à Freda, mais en même temps, ça part d'une expérience, d'une douleur tellement profonde qu'on se dit qu'on souhaite pas ça à sa fille. Mais bien sûr, les moyens, tu vois, utilisés pour empêcher ce même trajectoire, ben voilà quoi, c'est pas des moyens qui apaisent quoi, c'est des moyens qui continuent, qui perpétuent la douleur quelque part sous d'autres formes.
Et c'est vrai que Jeannette houspille un peu sa fille, alors que sa fille aînée, donc Freda, alors que elle encourage au contraire la plus jeune Esther à user de ses charmes pour séduire des hommes fortunés. Alors elle n'est pas vraiment à prostituer sa fille, ce serait peut-être un peu violent de dire ça comme ça, mais finalement si on réfléchit bien, c'est un petit peu ça quoi.
C'est
quand même un petit peu ça.
C'est ça, c'est parce que elle fait semblant de ne pas voir toutes les manigances, elle fait semblant d'être dans l'ignorance du fait que qu'Esther, ben même avec ce pasteur, avec ce sénateur, avec
ce
tous les hommes,
un petit pouvoir
exact,
l'intéresse.
Elle le sait bien, mais elle fait un peu abstraction de ça en se disant que voilà quoi, ne pas regarder quelque part, c'est valider une action et donner de l'espace pour que cette action existe. Donc, elle pose pas le regard sur le comportement d'Esther. Elle reste, tu vois, dans un truc où elle se dit, ben, c'est normal, elle aime cet homme, elle va se marier. Voilà. Alors qu'elle sait qu'au fond, c'est pas ça les enjeux, là. On parle pas d'amour, on parle de quelque chose de très carré où elle marie cet homme qui va lui permettre de quitter son quartier, ce contexte difficile, cette précarité dans laquelle elle vit. Oui.
Voilà. Après, c'est pas un bidonville non plus. Hein. Elle tient une petite épicerie, Jeannette, avec ses filles. Bon, la situation est difficile, mais c'est pas non plus.
Non, c'est
le
pas,
pire quartier
c'est
de
pas la cité de Dieu,
hein.
Oui. Voilà. Ou c'est pas les villages de Dieu.
Comme on parlait avec les prophètes.
Parce qu'il y a différents. Et c'est ça que de toute façon, moi, j'ai grandi dans ce contexte de précarité, mais pas de pauvreté extrême, comme quand on pourrait être à Cité Soleil, dans des endroits où c'est vraiment. Là, c'est très difficile de même envisager quoi que ce soit comme avenir. Mais là, on est dans un contexte de pauvreté. Mais quand même, il y a, comme on dit chez nous, des petits dégagés. C'est-à-dire un petit truc qui est mis en place pour nous permettre d'être dans une survie quotidienne. Tu vois, la boutique donne un peu de sous quand même, qui permet de manger. Tu vois, on peut quand même manger tous les jours. Donc, c'est pas une pauvreté où tout est quasiment impossible, quoi, oui.
Petit extrait du film. Alors, un extrait en français, justement. Nous sommes dans un restaurant chic où Freda vient de trouver du travail. Qu'elle s'est lissée les cheveux, comme vous le disiez il y a un instant. Sa sœur vient de la rejoindre, on est vraiment dans la salle du restaurant. Elle est au comptoir quand un homme très élégant, en costume cravate, arrive et reluque Esther.
Bonjour. Vous travaillez ici?
Non.
C'est bien ce que je me disais.
Elle, c'est ma sœur Frida. Elle peut vous aider à trouver tout ce que vous cherchez.
Vos collections dans la cour arrière, monsieur.
Voici ma carte.
Et c'est évidemment Esther hein, qui prend la carte, hein, sous le regard extrêmement hostile de sa sœur. Elle dit rien, mais son ton reste poli, mais froid. Mmh. Alors autant Jessica Généus, autant Jeannette, donc la mère, pousse sa fille Esther à passer du bon temps avec les hommes qui ont de belles voitures, qui ont la possibilité de faire des petits cadeaux par-ci, par-là. Autant elle est beaucoup plus réticente quand elle voit Freda aller à l'université. Et ça peut étonner le spectateur. Pourquoi elle a pas envie qu'elle fasse des études?
Parce que, à un moment donné, si tu dis à un parent haïtien, alors je généralise, mais on est d'accord qu'il y a des exceptions, mais si tu dis à un parent haïtien que tu veux étudier en médecine ou en droit, ils sont capables de visualiser l'avenir avec ces métiers-là. Mais l'anthropologie, c'est, alors là.
Mais parce que les sciences humaines, sciences sociales, c'est pas un métier.
Ça n'a pas de sens.
Il n'y a pas la piscine et, et le SUV derrière.
Exactement. Donc, ou même la gestion, l'administration, le secrétariat, hein, mais de là à être dans cette complexité que elle-même elle ne comprend pas, tu vois, elle lui dit, tu vois, c'est pas faire quoi avec ce master, c'est quoi ce délire de master, pour faire quoi? Donc ça veut dire que même Freda, même dans son choix d'études, tu vois, elle pense à elle et à ce qu'elle souhaite et à sa compréhension de la vie. Elle n'est pas dans un truc qui souvent est attendu dans la famille, où on choisit un métier qui potentiellement va nous donner du boulot pour pouvoir subvenir aux besoins de ses parents, de ses frères, de ses sœurs.
Mais ça, c'est important, effectivement, dans la compréhension psychologique du personnage de Freda, parce qu'elle tient à ses études, elle veut les terminer. Elle manque pas de personnalité, hein, au passage. Elle défend vraiment ses choix. Elle a une vraie conscience politique aussi.
Oui, parce que l'anthropologie, c'est jamais anecdotique, hein, les choix qu'on fait, surtout des choix aussi précis et qui vont à l'encontre de ce que tout le monde attend de nous. Donc, c'est ce désir de comprendre sa société, des gens qui y vivent, de comprendre sa culture et de ne pas être en surface comme sa mère et de ne pas être dans le déni de qui elle est. Et forcément, ça lui pousse à avoir ce caractère où elle se pose des questions, que ce soit sur son identité, que ce soit sur sa condition de femme, mais aussi sur la condition de, tu vois, sur le pays dans lequel
elle vit. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs scènes comme ça dans le film où Freda participe à des discussions politiques avec ses camarades, avec ses professeurs aussi. Alors on parle du poids de la colonisation, on parle de la concurrence entre le vaudou et les églises évangéliques, on parle aussi de l'usage du français et du créole, on parle de l'identité, de l'héritage d'Haïti. En somme, nouvel extrait.
En homme grandissant, nous avons les protestants qui nourrissent plus cette idée de malédiction et l'associe au fait que nous ayons pris notre indépendance avec le vaudou, la religion du diable. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que la malédiction a commencé le jour où les Français ont décidé de nous arracher de nos terres pour nous éparpiller à travers la Caraïbe. Non, non, leur message est clair. Nous sommes maudits parce que nous refusons de nous blanchir. Alors la question que vous deviez vous poser, êtes-vous un agent conscient ou inconscient du colon? Quelles sont les séquelles que vous perpétuez de génération en génération et qui handicapent cette nation? Alors je vous écoute.
Ça veut dire que le premier aspect à qui vous êtes supposé commencer, c'est notre conscience nous d'abord. Pas garder sous sa colon, été fait nous, ça passe longtemps. Je pense que nous devons commencer à réagir pour nous sauter tête nous là-dedans. C'est qu'on s'allie.
Depuis petit, il faut comprendre que il faut nous comprendre, il faut nous étudier l'école que Dessalines c'est un sauvage.
Donc la conversation commence en français avec l'enseignant et petit à petit il y a ce mélange comme ça entre français et créole dans les conversations entre les étudiants. Alors on a entendu là dans l'extrait Jessica Généus le mot conscient ou inconscient. Est-ce que vous diriez que la génération des jeunes femmes comme Freda ou des jeunes garçons, c'est une génération consciente?
En tout cas, plus que celle d'avant, au niveau de leur rapport avec leur identité culturelle, je dirais, parce qu'il y a différents types de conscience, et aussi il y a des moments où on a l'espace pour réfléchir à certaines choses et d'autres moments où on l'a pas. Je pense que pendant la dictature des Duvaliers, par exemple, il y avait une préoccupation, il y avait une, tu vois, cette génération était prise à la gorge et devait tout simplement penser à la survie et comment se débarrasser de cette dictature, qui ne favorisait pas forcément toujours une réflexion sur d'autres handicaps que ce peuple peut avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a, parce que cette génération justement s'est battue pour que cette dictature n'existe pas, ma génération a un autre regard sur qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Parce que là, on ne peut plus dire que c'est la dictature. Alors c'est quoi? C'est quoi cette complexité? C'est quoi ces handicaps? Elles ne sont pas que politiques. Il y a aussi quelque chose qu'on perpétue. Il y a aussi quelque chose qui nous échappe quand on doit voter, quand on doit prendre des décisions concrètes pour que ce pays aille mieux. Et donc, je pense que aujourd'hui, on a, la réflexion doit être beaucoup plus large que juste le fait de dire, voilà, on a hérité de ça, parce qu'il y a quand même des gens qui se sont battus pour nous donner des contextes beaucoup plus favorables à faire, pour faire des choix qui vont améliorer nos conditions dans ce pays. Et est-ce qu'on utilise vraiment cette opportunité? Est-ce que...
Là, vous posez des questions, et c'est vrai qu'on entend énormément de questions. Alors, il y a des prises de position extrêmement différentes hein, dans les scènes, justement, en particulier entre les étudiants. Et l'une des lignes de fracture, c'est est-ce qu'on a le droit, pour préparer l'avenir d'Haïti, d'utiliser la violence ou pas? Et là-dessus, Freda, elle est très claire.
Oui, et c'est ça qui est difficile. Parce que quand t'es dans l'oppression, quand t'es opprimé, et en plus qu'on te demande d'être dans la conciliation, c'est très complexe d'articuler ces deux émotions à l'intérieur de soi. Parce que quand on te fait mal, la réaction logique, c'est de répondre...
Voilà, de se défendre et peut-être défendre. Même de faire encore plus
exact,
mal.
Exact, et de faire encore plus mal et de s'assurer que cette personne ne recommence pas. Et pour que cette personne ne recommence pas, il faut que la réaction soit égale à ce qui a été déployé comme oppression. Mais c'est compliqué, parce qu'il y a des répercussions et ça n'en finit plus. Donc on se dit, qu'est-ce qui est vraiment effectif? Est-ce que c'est la réaction violente, ou être beaucoup plus intelligent, beaucoup plus stratégique et opter pour des réactions qui vont nous permettre de rester en vie, parce que la violence, ben, ça tue, et il y a énormément de jeunes qui ont été assassinés ces 3 dernières années. Donc c'est d'être intelligent par rapport à la stratégie. Mais quand on est dans la douleur, cette intelligence, bien sûr, elle en prend un coup.
Oui. Alors en plus, dans le film, on est dans un contexte marqué par la contestation. Comme souvent en Haïti d'ailleurs, à vous montrer des images de manifestations contre la hausse des prix du carburant, contre la corruption des politiques. Il y a des slogans très très forts et très hostiles aux pétroliers, aux responsables politiques. C'est important comme ça de croiser dans le film la fiction, donc votre histoire, celle de Freda et de sa famille, et la réalité de l'instant.
Parce que déjà, je dis que Freda, c'est un réel contrôlé. J'ai pas la sensation d'être dans une fiction, oui, même oui. Si ça a été scripté,
oui.
Même s'il y a du cinéma quand même, parce qu'on fait un bien film. Sûr. Mais c'est quand même très très proche de ce qu'on vit quotidiennement. Et donc, on peut pas faire un film contemporain sans parler de ces manifs qui ponctuaient la vie des Haïtiens, presque quasiment toutes les semaines, tous les mois, il y avait toujours soit...
Là, c'est des vrais manifs, c'est pas des faux manifestants, manifs. C'est pas des figurants que vous avez payés pour figurer dans le film.
Déjà, on n'aurait pas eu
là,
les moyens.
Là, c'est des images de reportage, c'est oui. Presque des images de documentaire. Et vous venez d'ailleurs vous-même du documentaire, oui. Jessica Gédéus. Et ça sent dans le film, dans votre façon de filmer.
Oui, donc on a filmé déjà, même, j'étais même pas encore en écriture de Freda, hein, mais comme je participais à quasiment, pas toutes ces manifestations, mais la plupart, de ces manifestations, donc on filmait. Et quand j'étais pas là, ben j'avais des amis réalisateurs, des amis journalistes, des amis responsables de médias en Haïti qui filmaient. Et donc pendant le montage, donc j'ai collecté un peu toutes ces images pour voir qu'est-ce qui s'articule dans le propos de Freda. Mais c'était toujours très dangereux. Très, très
dangereux de filmer, donc vous avez eu du mal à...
Ah ben oui,
sur les prises
oui,
de vue.
On se faisait tirer dessus. On se faisait tirer dessus à balles réelles, on se faisait tirer dessus à balles de caoutchouc, les gaz lacrymogènes, enfin tout. Comment que ça existe dans le film, c'est exactement ce que nous, on faisait face, et beaucoup plus que moi, les étudiants. Parce que les étudiants, ils étaient dehors tous les jours. Ils étaient face aux policiers, dans les rues, en train de manifester tous les jours. Nous, on choisissait les moments où aller, mais eux, ils étaient... Et je pense, plus que... qu'à la femme haïtienne, ce film est une ode aux étudiants haïtiens et à cette jeunesse haïtienne qui s'est vraiment tenue au péril de sa vie face à ce gouvernement, face à cette oppression et qui ne s'est pas laissé faire. Quoi.
Donc, sacrée expérience de tournage, évidemment, pour vos comédiens. Au passage, quand même, hein, Néhémie Bastien qui joue Freda et Fabiola Rémy qui joue la maman, qui joue Jeannette, n'avaient jamais tourné. C'est
non.
Là leur premier rôle au cinéma. Elles sont absolument époustouflantes, et vraiment, et pas seulement parce que c'est la première fois, mais elles sont époustouflantes tout court. Comment est-ce que vous les avez trouvées, ces actrices-là?
Mon Dieu, déjà, Néhémie, à un festival de théâtre, c'était sa première... Elle jouait dans sa première pièce de théâtre. Donc, en même temps que j'étais en pré-production, il y avait le festival Quatre Chemins en Haïti, dirigé par mon ami Guy Régis Junior. Et donc, je l'ai vu à une représentation théâtrale de mise en scène par Michel Lemoine à La Focale. elle jouait une petite fille de 8 ans.
Ah oui.
Était mais magique. Mais en même temps, je me disais, tiens, elle a peut-être 16 ans, parce qu'elle jouait, elle était tellement crédible que je croyais qu'elle avait peut-être plus, parce que c'était, on était un peu dans l'absurde, dans quelque chose de, voilà, de décalé. Et après, je l'ai revue dans une autre représentation, et là, j'ai compris, ouais, que Frida existait, parce que, à la base, je devais jouer, parce que je suis comédienne, j'ai commencé comme comédienne, et j'ai tout de suite compris en la voyant que j'étais absolument pas la personne la mieux placée pour jouer ce rôle.
Et pour le rôle de la mère?
Et là, Jeannette, je l'ai rencontrée près de mon bureau, comme ça, à 5 jours du tournage.
Vous l'avez croisée dans la rue, comme
croisée comme ça.
Ah oui, d'accord, oui.
Et je suis tombée sur son visage, je suis restée figée 2 minutes. Et elle me regardait, elle rigolait parce qu'elle se disait, c'est qui cette folle qui la regarde comme ça sans arrêt. Elle est venue faire le casting, elle n'arrêtait pas de rigoler tout le long du casting parce qu'elle se disait, c'est quoi cette idée de casting, c'est quoi cette histoire de film, elle comprenait rien. Mais j'ai tout de suite compris que sur le tournage, elle allait comprendre que... Il n'y avait pas à jouer, il y avait à exister.
Mais alors comment vous l'avez dirigée, Jeannette ?
Ouh, on ne dirige pas Jeannette. On la chope par surprise.
Ça veut dire quoi, ça, concrètement ?
On la chope par surprise. Souvent, je la faisais répéter. Je disais, on fait juste une répétition. Et là, je posais ma caméra, puis tranquillement, je disais rarement action, pour ne pas dire jamais. Donc, il n'y avait jamais cette posture où on se dit que tu vois, qu'on va commencer à tourner, ça y est, ça commence. Parce que ça sert à rien. Tu vois, tu mets la personne dans une position de stress et du coup, elle se referme sur elle, elle a peur, elle se dit « Ok, ça y est, on est en train de me filmer. » Alors qu'en fait, le fait d'avoir installé cet univers où on n'avait jamais... Comme dans le documentaire, on ne dit pas « ça y est, ça commence ». Tu vois, on met la caméra, on laisse la caméra exister avec les gens et à un moment donné, tout le monde oublie la caméra et on filme. Et donc, c'est souvent comme ça que je faisais. Et jusqu'à ce qu'elle, elle a commencé à exister tout naturellement. Et quand je sentais qu'elle était prise au piège par le dialogue, parce que souvent, tu sais, quand on écrit trop.
Oui.
Donc, j'avais trop écrit. Et quand elle le disait, je sentais qu'elle était... Je lui enlevais le dialogue. Je dis, mais enlève ça, débarrasse-toi de tout. Parce que, tu vois, j'étais pas dans une rigueur par rapport... Autant que j'étais dans une rigueur par rapport au cadre, avec ma chef opératrice, bien sûr, Karine Olnet, mais autant que par rapport au dialogue, je savais qu'il fallait que je sois dans une grande flexibilité et que je permette aux gens d'exprimer ce qu'il y avait à exprimer avec le peu de mots. Parce que quand même, l'image, apporte son dialogue. Donc, faut doser les deux pour que ça ne se... pour qu'il n'y ait pas d'entrechoc, ouais.
Et Défi, le chanteur Rasta, hein, dont le nom est ainsi scandé dans cette boîte de nuit de Port-au-Prince, c'est l'un des personnages masculins du film, Jessica Généus. Il est amoureux d'Esther, mais c'est un Rasta sans le sou, alors il n'est pas vraiment bien vu. Hein. Il y a aussi Yeshua, qui est le petit ami de Frida, qui l'incite à quitter le pays, à partir à Saint-Domingue. Il y a Moïse, qui est le frère de Frida, qui lui rêve d'un Eldorado encore plus lointain. Donc on est vraiment en permanence dans ce dilemme, partir ou rester ou partir, et si on part où, et comment on fait pour vivre ailleurs, et si on reste, on fait comment pour continuer à vivre ou à survivre. C'est ça, en fait, le quotidien de la jeunesse en Haïti aujourd'hui.
Ah, précisément aujourd'hui, ouais. Je pense qu'on est dans ce dilemme douloureux de se dire qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire, rester en Haïti n'est même plus question de choix, parce qu'on te pousse à quitter ce pays, littéralement, parce que tu es en danger quotidiennement. Et ça, c'est même pas une façon de parler. Dans le quotidien de l'haïtien aujourd'hui, il est en danger. Et forcément, quand tu es début vingtaine et que tu te dis, voilà quoi, j'ai la sensation d'avoir la vie devant moi, tu te dis, est-ce que c'est là que tu veux que cette vie se construise? Qu'est-ce qu'il y a pour toi pour que ça se construise ici? Ça n'a aucun sens. Et donc c'est pour ça que c'était important, parce que la jeunesse, c'est quand même 70% en Haïti. Donc c'était important de faire que sa parole existe, parce que c'est elle qui se retrouve à un carrefour, même si on est tous en danger à tout niveau, tout âge, mais il y a quand même cette partie de la population qui se retrouve, mais vraiment sans avenir et sans outils pour construire un avenir.
Mais vous-même, Jessica Généus, vous faites partie de cette jeunesse haïtienne et vous avez choisi de rester, vous.
Je bouge quand même beaucoup, mais oui, je suis là et je pense que c'est une grâce d'avoir la flexibilité de bouger et ça nous permet de respirer un peu hors de ce contexte. Mais je pense à ceux qui ne peuvent pas le faire, pas parce qu'ils ne le veulent pas, parce que tout simplement avoir un visa en Haïti, c'est quasiment impossible. Donc, je me suis toujours dit que les personnes qui sont en position de privilégier, quelque part, par rapport à cette situation, ont une obligation d'implication. Parce qu'on est capable d'exister d'une façon dans ce pays sans la contrainte. Et on est capable de se retirer quand ça devient trop compliqué. Et donc, je pense que comme beaucoup d'autres, oui, j'essaye de rester le plus que possible parce que justement, j'ai la flexibilité de quitter quand ça va mal. Et j'ai pas le choix. Oui, moi, c'est mon...
Ouais. Merci. Merci beaucoup, Jessica Généus. Freda, film formidable à découvrir. Donc, mercredi prochain au cinéma sur les écrans français. Merci beaucoup. I can't believe I'm still talking about you, that feeling. I should have lost it. I should have lost it by now. I can't believe I'm still holding out and seeing signs I've truly lost it, I've truly lost it this time. Famous Last Words, extrait du nouvel album de James Blake, un disque intitulé Friends That Break Your Heart, des amis qui vous brisent le cœur, hein, c'est bien ça en français, un film qui sort aujourd'hui.
Un café gourmand s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et avec nous cette semaine, Marjorie Bertin, Muriel Mahalouf et Amélie Beaucourt qui se moquent comme d'habitude de mon accent anglais. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour. Hello, bonjour.
Dans un instant, on va partir dans le sud de la France. Alors, je vais pas utiliser l'accent marseillais. En tout cas, ce sera avec... Non, ce sera avec vous, Muriel.
Oui, dans un petit coin de paradis où nature et art font bon ménage, c'est la friche de l'Escalette.
Voilà, donc à côté de la capitale de la Provence. On partira aussi rejoindre le monde de la mer, cette fois avec vous, Marjorie. Là, je n'ai pas utilisé le langage des dauphins non plus. Je ne suis pas assez entraîné. Vous êtes en tout cas à vous aller voir les Océanographes, un spectacle de théâtre sur Anita Conti. C'est au T2G, le théâtre de Gennevilliers, dans la banlieue nord de la capitale française.
Absolument, des archives de comédiennes extraordinaires, un film projeté sur grand écran et une ondiste, une joueuse d'ondes Marteneau, un instrument aux sons étranges. Il n'en fallait pas moins pour retracer la vie fascinante d'Anita Conti, première femme océanographe de France qui fut aussi une pionnière de l'écologie.
Dreyfus est innocent, je jure. J'y engage mon honneur à cette heure solennelle.
Amélie, on ressort du grenier le dossier poussiéreux de l'affaire Dreyfus et surtout des coupures de presse qui ont animé le débat public. On va faire un petit point histoire quand même pour commencer avec vous. Alors c'était quoi, c'était quand cette affaire?
Alors dans les grandes lignes, parce que c'est très long, c'est l'histoire d'un capitaine de l'armée française, Alfred Dreyfus donc, qui s'est vu accusé à tort du jour au lendemain de trahison et qui a vu le gouvernement, la presse, l'opinion publique se déchaîner contre lui, coupable idéal car il était juif et à l'époque, nous sommes en 1880, l'antisémitisme est non seulement présent, mais diffusé, affiché allègrement dans toute la société française.
Et cette histoire, elle est racontée en long, en large et en travers dans cet énorme coffret rouge que vous avez entre vos blanches mains.
Oui, et regardez, quand on l'ouvre, on découvre une réplique de clavier d'ordinateur et une énorme bande dessinée lovée dans son écran. Hein, ouais. Exactement. Lorsqu'on feuillette les premières pages, on comprend tout de suite, les planches sont en fait des pages web sur lesquelles va défiler l'histoire de l'affaire Dreyfus.
Oui, d'ailleurs, il y a même le petit sablier hein, au tout début de l'album.
Exactement, comme quand on ouvre, quand on est sur son bureau d'ordinateur, exactement. Mais tout ça sur papier. Et donc Jean Dittard, l'auteur et dessinateur de ce pavé de 300 pages avec lequel je pourrais vous assommer,
je vais éviter,
a choisi de mettre en scène l'affaire en reprenant nos codes narratifs à nous. C'est ainsi qu'on voit par exemple Émile Zola lancer son « j'accuse » en 140 caractères sur une version 19e siècle de Twitter qui s'appelle « Le gazouillis de Paris » ou des éditorialistes de l'époque s'invectiver dans les commentaires du trombinoscope Facebook, du coup, de la Troisième République.
D'accord.
Bon, mis à part la forme, évidemment, car je suppose que Georges Clemenceau ne se dandinait pas sur TikTok.
Vous avez vérifié cette information?
Non, j'ai eu un petit peu de mal, bon, mais voilà, je suppose ça très fort. Oui. Tous les propos rapportés, chaque mot, est tiré d'un document d'archives, articles de presse, mémoires, communiqués de l'armée, etc., dans lesquels Jean Dittard s'est plongé pendant près de 2 ans.
L'enjeu des sources, il est tout de suite arrivé avec l'idée aussi d'en faire une sorte de contrainte de création ou d'écriture qui soit féconde, ne pas écrire un seul texte et faire un récit qui soit façonné par un montage de textes d'origine très diverses. Et avec cette matière, en fait, essayer de construire un récit qui soit à la fois intelligible. Quelque part, il y a une transmission, en fait, possible d'énormément de sources qui seraient sinon jamais lues, en réalité. Il y a un peu plus de 300 extraits de journaux qui apparaissent dans mon livre, plus de nombreux témoignages. Alors, un certain nombre sont bien sûr accessibles déjà dans des livres, et puis dans des livres d'historiens. Certains articles sont des articles incontournables, mais au fond, qui les lit vraiment? Qui même a vraiment lu entièrement le J'accuse de Zola?
J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse.
Et la BD propose donc, Amélie, un accès immédiat à ses sources. Alors, comment ça fonctionne?
Alors, sur certaines planches, on retrouve un onglet supplémentaire dans le coin, exactement comme sur une page web, comme je vous le disais, qui indique que des ressources sont consultables à ce sujet. Alors, on a très envie de cliquer dessus, mais on le fait pas parce que c'est du papier, donc on serait ridicule, même si je suppose que ça vous tente, Jean-François. En revanche, on se munit de son smartphone ou d'une tablette, on télécharge l'application de l'éditeur Delcourt, et on scanne la page qui nous intéresse. Et là, sur l'écran de votre smartphone ou tablette, apparaît en réalité augmentée tantôt un article de l'époque, tantôt un encart biographique qui présente un nouveau personnage de l'histoire. Alors dans une ère où le complot et les fake news règnent sur le débat, c'était pour lui un enjeu colossal que le lecteur puisse remonter à la source de l'information, d'où ma question difficile, je le conçois. Si l'affaire Dreyfus avait eu lieu à notre époque, avec Internet, réseaux sociaux et compagnie, est-ce qu'elle se serait déroulée différemment ?
Beaucoup de phénomènes qu'on identifie à des logiques très contemporaines, comme typiquement les réseaux sociaux, le fait que chacun puisse s'exprimer, parfois sous pseudonyme, des choses comme ça, existaient d'une autre façon, déjà avec la presse du 19e siècle, quoi. Parce qu'on était dans un moment où il y avait une très grande liberté d'expression, même une plus grande liberté qu'aujourd'hui, puisqu'il y a des choses qu'on pouvait exprimer à l'époque qui passeraient aujourd'hui sous le coup de la loi, quoi. Donc de condamnation pour incitation à la haine raciale, ce genre de choses. À l'époque, il y a une virulence. Enfin, il y a quelque chose qui est même un peu hallucinant à lire, de lire aujourd'hui. Enfin, on se rend pas compte.
Oui, hallucinant, c'est le mot. Hein. La haine à l'encontre des Juifs est affichée sans aucune gêne. On en a la preuve dans la BD. Par exemple, le quotidien La Libre Parole, qui est sous-titré La France aux Français. Donc, c'est pour que vous cerniez un petit peu ce quotidien. Écrivait dans le plus grand des calmes à ce moment-là. Je cite. Cette phrase n'est pas de moi. Dreyfus était juif comme d'autres sont nègres. C'est bien cruel d'être juif, mais c'est bien dur aussi d'avoir la figure couleur de cirage. Voilà ce qu'on pouvait lire dans la presse française à cette époque, et ça ne choquait personne. Mais pour Jean Dittard, cette violence dans les propos fait aussi écho à des réflexions d'aujourd'hui, notamment sur qui façonne le débat public.
À l'époque, quelqu'un comme Séverine, par exemple, une journaliste féministe, reproche à tous les idéologues antisémites nationalistes la tentative d'assassinat de l'avocat de Dreyfus, Labori, parce qu'il y a des mots qui ont été rabâchés, exprimés en permanence, qui ont permis à quelqu'un, à un moment donné, de passer à l'acte d'une chose violente comme ça. Et donc, elle en appelle à la responsabilité des gens qui tiennent la plume. Aujourd'hui, tout le monde a un petit peu la plume aussi, fabrique le débat public, y participe. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas la même responsabilité, parce qu'on n'est pas tous avec des positions de pouvoir. Par exemple, choisir quels vont être les grands sujets qu'on va mettre en avant médiatiquement, ça c'est un pouvoir énorme et qui implique des responsabilités énormes. Mais c'est vrai qu'une des différences par rapport au moment de l'affaire Dreyfus, c'est que quand on a un compte Facebook ou Twitter et qu'on communique, on est un média aussi à notre échelle, quoi.
Voilà, alors si nos hommes politiques, candidats ou non aux élections présidentielles, nous écoutent, qu'ils en prennent de la graine. Hashtag J'accuse, c'est le nom de ce documentaire dessiné en noir et blanc à la mode des gravures de presse de l'époque, et c'est un outil pédagogique presque que je recommande à toutes celles et ceux qui veulent tout savoir, mais vraiment tout, c'est très dense, sur l'affaire et inspecter les journaux de l'époque avec les lunettes d'aujourd'hui.
Et c'est aux éditions Delcourt, merci Amélie.
Un peu plus de 10h15 et nous sommes en direct à l'antenne et ça sent bon le poisson, vous le remarquez comme moi.
Ben, ça sent la morue. C'est bien normal puisque nous sommes avec Anita Conti sur le Bois Rosé, ce grand chalutier qui transporte des morues. On est dans les années 50, aux côtés d'Anita Conti. Elle est sur le pont. On est en train de traverser. On est parti de Fécamp et on va arriver de l'autre côté de l'Atlantique pour pêcher à morue.
Bon, on se croirait un peu à la radio avec cet extrait, Marjorie. D'ailleurs, on y est là quand même, autour de la table du Café Gourmand. Alors, c'est pas Amélie, c'est pas Muriel qui vient de parler, mais c'est au théâtre. Hein, donc, vous allez nous embarquer, Marjorie, avec les océanographes. C'est donc un spectacle sur la vie d'Anita Conti. Alors, qu'avait-elle de si particulier, cette Anita Conti?
Ou alors, beaucoup de choses. Dès l'entre-deux-guerres, cette océanographe d'origine arménienne qui a vécu près de 100 ans a dressé, comme on dit, des cartes maritimes, des cartes de pêche sous-marine, un travail de terrain pour lequel cette autodidacte s'embarque avec des pêcheurs. Elle est l'une des premières à s'inquiéter des effets de la pêche industrielle sur les ressources maritimes, du gaspillage aussi, tout en révélant la poésie des océans. D'ailleurs, elle préférait qu'on l'appelle océaniste plus qu'océanographe. D'après les deux metteuses en scène du spectacle, donc, Louise Aymon et Émilie Rousset.
Et comment est-ce qu'elle donne vie à Anita Conti?
Alors, c'est ce qu'on appelle du théâtre documentaire. Hein. C'est de la fiction théâtrale à partir de matière réelle. Un petit peu comme ce que vient de dire Amélie à propos de J'accuse, mais au théâtre. Donc le texte a été écrit à partir d'archives, à partir d'entretiens d'Anita Conti et de quelques entretiens que les metteuses en scène ont réalisés aujourd'hui auprès d'océanographes pour voir en quoi ces travaux restent actuels. Et puis il y a ce film muet, extraordinaire, Racleur d'océan, tourné par Anita Conti en 1952, alors qu'elle était embarquée pendant 6 mois parmi 60 hommes, pêcheurs de morue pour partager leur vie au milieu de l'océan. Elle revient à terre avec des connaissances, disons, un peu atypiques.
Vous voyez, le nœud de queue de chalut. Il y a à bord un seul gars qui sait faire ce nœud extraordinaire. Parce que, quand vous remorquez un animal de chasse qui a 60 mètres de long et que dans le cul de cet animal de chasse, vous arrivez à mettre quelquefois 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20 tonnes de poissons, eh ben, il faut un nœud qui soit à la fois calculé et exécuté de telle sorte qu'au moment où on ressort de l'eau, au bout de 2 heures de traction sur du fond, sur du sable, sur de la roche, sur du n'importe quoi, où le chalut bondit, eh ben, il faut que ce nœud ne se défasse pas.
Elle est passionnée et sur scène, ça prend surtout vie grâce à deux comédiennes époustouflantes, il faut le dire, qui sont aussi très complices. Antonia Buresi, la trentaine, élancée, crinière aux burnes, regard mutin, qui joue dans la première partie du spectacle une journaliste, donc qu'on a entendu tout à l'heure, qui interroge Anita Conti. Dans la deuxième partie du spectacle, elle est une océanographe de nos jours, passionnée elle aussi par les fonds marins et les poissons. Et puis il y a l'extraordinaire Saadia Bentayeb qui joue Anita Conti.
Oui, Saadia Bentayeb qu'on voit dans les spectacles de Joël Pommerat, je crois.
Oui, absolument. Et depuis très longtemps, elle peut tout jouer. C'est extraordinaire. Et dans Océanographe, elle est absolument exquise. Petite lunette ronde, chemisier de soie, petit tailleur cintré. Elle est donc à la fois Anita Conti en son époque et ce qu'elle pourrait être et dire aujourd'hui. Un peu comme un petit fantôme caustique qui titille le présent avec humour, Saadia Bentayeb.
C'est le fantôme d'Anita, elle est morte, elle se décide pas à quitter la terre et la mer, elle vient rôder et puis elle fait celle qui s'y connaît, elle fait croire que oui, elle sait bien le streaming, tout ça.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'elle casse complètement les préjugés, Anita Conti. Elle écrit ce qu'elle veut, comme elle veut, s'embarque où elle veut et parle sans fard de son travail.
Vous étiez une écologiste avant l'heure. Comment avez-vous pratiqué cette écologie ?
D'une manière, j'allais dire, effroyablement cruelle et naturelle. Quand vous pêchez quelquefois 15 tonnes sur un pont de navire, ben je vous garantis qu'il faut avoir une âme durement chevillée au corps. Et une âme féroce pour être capable de voir, sans cri, des gueules de poissons qui s'ouvrent et qui ont vraiment l'expression de hurler et de s'étouffer. Ben oui.
Et pourtant, elle n'est pas si connue que ça, Anita Conti.
Mais j'allais dire, vous la connaissiez avant?
Non, pas du tout.
Non, moi non plus, hein, du tout. Et pourtant, elle est très contemporaine, d'après la metteuse en scène Louise Aymon.
Elle est contemporaine dans l'idée qu'elle n'a pas été entendue et que c'est quand même une des premières à alerter sur les rejets et aussi sur la préservation des océans et de la biodiversité. Et en fait, on a rencontré des océanographes et un ingénieur en halieutique d'aujourd'hui. Et tous nous disent que depuis le temps d'Anita Conti à aujourd'hui, les problèmes se sont prolongés et qu'à son époque, on avait une vision infinie de l'océan. On pensait qu'il était toujours chalutable et aujourd'hui, il y a une vision plus fini de la mer.
Et l'un des grands atouts de ce spectacle, c'est d'aborder l'écologie de façon didactique, testimoniale et contemporaine, sans fustiger ni donner de leçons. Il y a par exemple beaucoup d'humour dans la deuxième partie des Océanographes. Ce n'est pas un spectacle catastrophe ou catastrophiste. Au contraire, il montre vraiment l'audace de ce petit bout de femme comme une preuve de courage, de ce qu'on peut faire en étant animé d'une passion et d'une cause.
Alors comment est-elle la scénographie à présent, Marjorie ?
Oh, elle est très simple, hein, avec de bonnes comédiennes et un bon texte, finalement, il n'y a pas besoin de grand-chose. Alors il y a des feuilles, il y a des milliers, des milliers et des milliers de feuilles de papier empilées qui représentent les archives d'Anita Conti, ou bien qui tombent doucement des cintres, des plafonds du théâtre comme des centaines de petits poissons, qui figurent aussi parfois des algues, des icebergs, et aussi la présence d'un instrument peu connu, dont il y a très très peu de joueurs dans le monde, les ondes Martenot, un instrument électronique au clavier minuscule dont les sons nous donnent une étrange impression d'être ailleurs, mais aussi d'entendre des voix venues d'ailleurs.
Oui, oui, mais faudrait réfléchir à ça pour un jingle. Je sais pas ce que Guillaume va en penser. Océanographe, une mise en scène de Louise Aymon et Émilie Rousset. C'est donc au théâtre de Gennevilliers, en région parisienne, jusqu'au 9 octobre. Merci Marjorie. Allez, on part donc comme prévu à Marseille, vers un petit coin de paradis, comme vous le disiez tout à l'heure Muriel, les Goudes. C'est au sud de Marseille, on est entre Méditerranée et Falaise, au cœur des Calanques. Et c'est donc là que se niche cette friche de l'Escalette que vous avez eu la chance de visiter pour nous.
Oui, c'est juste en face du port de l'Escalette, Jean-François. Une friche de quelques 3 hectares avec ses 7 cabanons, une végétation libre qui prospère sur la pierre et une vue à couper le souffle sur la Grande Bleue. Éric Touchalôme, galeriste, a acquis les lieux il y a une dizaine d'années.
Moi, je suis littéralement tombé amoureux de ces ruines gigantesques, ces murs cyclopéens. C'est vraiment le Machu Picchu des Calanques.
Il fallait tomber amoureux et ne pas trop réfléchir pour s'attaquer à l'immense chantier qui attendait Éric Touchalôme dans cette friche.
Et qu'est-ce qu'il y avait, justement, Muriel, dans ce lieu absolument gigantesque ?
Alors, un petit rappel historique. 1850, c'est la révolution industrielle. Une dizaine d'usines prennent place dans les Goudes. On est entre la verrerie, le soufre, la soude pour le savon, des industries polluantes, mais dont les émanations sont loin du centre-ville de Marseille. Le Mistral les amenant à l'opposé. Dans l'Escalette, une usine de plomb est construite, 75 ans d'activité, avant de s'arrêter en 1925. Les lieux deviennent ensuite une décharge publique, puis sont squattés par des ferrailleurs, cascadeurs et plein de familles y vivent pauvrement, quasi sans aucun lien avec Marseille. C'est donc un terrain extrêmement pollué qu'a récupéré Éric Touchalôme et dans lequel il mène un travail de titan pour l'assainir. Il y présente des œuvres contemporaines ou encore des modules d'architecture de Jean Prouvé.
Le concept de Jean Prouvé, c'est de faire des maisons usinées comme des automobiles. Il voulait amener le beau et le confort à la portée de tous, avec ses moyens de ferronnier au départ. Donc vous avez un pavillon 6-9 qui était fait pour les réfugiés de guerre de Lorraine, le petit cabanon qui est là à gauche, qui est devenu vraiment une icône de l'architecture de Jean Prouvé. Et puis vous avez également une maison faite pour un concours scolaire au Cameroun, pour des classes et pour des logements d'instituteurs. C'est comme ça que j'ai ramené quelques-unes de ces maisons. Alors, il faut lui donner une utilité. Viollet-le-Duc disait, c'est très bien de restaurer un bâtiment, le repeindre, etc. Mais si vous ne lui donnez pas une utilité, il va dépérir et il finira par disparaître. Il faut que ça ait une utilité. Donc moi, je redonne une utilité aux architectures de Jean Prouvé. Et la petite maison du Cameroun qui est là, on en fait une chambre, une petite habitation, vous avez vu. Et ce bâtiment du Cameroun, sans climatisation évidemment, est naturellement ventilé. C'est un concept formidable. En été, quand il fait 40 degrés, vous pouvez faire une sieste merveilleuse à l'intérieur de ce cabanon du Cameroun.
Oui, il en parle très très bien, Éric Touchalôme, architecture et art contemporain, donc au programme de cette friche de l'Escalette, Muriel.
Oui, depuis cet été, on peut voir les œuvres de plusieurs artistes. Claustra, par exemple, c'est l'œuvre d'Héloïse Bariol, qui sont des blocs en terre cuite rouge, qui serpentent et dialoguent avec la pierre blanche. Ou encore Soleil blanc, d'Adrien Vescovi, un immense tissu de plus de 6 mètres de hauteur, qui épouse un reste de mur et évolue au gré du vent.
C'est une œuvre qui est faite de textile et d'ocre. Ce sont des draps récupérés, des draps qui appartenaient à des trousseaux, qui sont récupérés, découpés, Mais avant cela, ils sont teintés dans des ocres qui proviennent du Roussillon, du Vaucluse, mais aussi d'Allemagne, mais aussi d'Italie. Voilà, donc c'est vraiment un travail de textile, d'assemblage, de découpage. C'est une peinture qui est atmosphérique. Donc effectivement, le vent, la pluie, le sable, certainement, qui va se charger dans la toile. Ouais. C'est en fait différents textiles récupérés. C'est comme une mémoire collective, en fait. C'est vraiment des draps qui ont appartenu à des trousseaux, donc des gens ont pris soin de les coudre. Pour moi, c'est vraiment une histoire collective que je m'approprie dans ma peinture.
Une histoire collective comme celle d'ailleurs de la friche.
Oui, tout à fait, et dont la mémoire est préservée. Pas question pour Éric Touchalhomme de faire table rase. Ainsi, rien n'est détruit et ce qui reste de l'ancienne usine ressemble en fait à des ruines contemporaines, parfois envahies par la végétation, laissées libres de croître et dans laquelle s'insèrent les œuvres. Un projet à long terme et pour plusieurs générations. Éric Touchalhomme.
Ce site a vraiment un intérêt patrimonial exceptionnel. Je pense qu'il sera classé un jour, déjà en soi, donc le protéger. Et puis ce qu'on y expose, donc des maisons de Jean Prouvé, qu'on restaure. On a un atelier de restauration qui tourne à l'année, avec 5 personnes qui travaillent ici à l'année. Et c'est déjà en soi, c'est vivant. Bon, à terme, on veut évidemment le développer. J'ai mon fils qui maintenant a 35 ans, qui rêve de rouvrir la buvette épicerie de la Scalette, qui existait depuis les années 40, et faire un bistrot pour qu'on puisse restaurer les gens qui viennent visiter la friche, retaper les cabanons pour faire des chambres d'hôtes, retaper les ateliers pour faire des résidences d'artistes, et puis continuer surtout notre projet culturel, qui est d'exposer des architectures légères, et des œuvres modernes et contemporaines.
Un site ouvert tous les week-ends jusqu'à fin octobre, et ce sont des visites guidées, car le parcours accidenté peut être dangereux.
Ah oui.
Oui, et certains endroits sont encore très pollués au plomb.
C'est bien que ça reste un peu confidentiel, il faut que ça se mérite. On emporte ses baskets, on sa gourde, il fait 40 degrés, on marche, mais on le mérite quand on arrive là-haut, on est ravis de sa visite. Tous les gens sont ravis quand ils viennent ici. Et bien moi, c'est ça que j'ai envie de faire, un endroit poétique et le pérenniser.
Éric Touchalhomme, à votre micro, Muriel, la friche de l'Escalette, entre nature et art, un endroit donc à découvrir dans les Goudes, au cœur des Calanques de Marseille. Merci beaucoup Muriel, merci également à Amélie et Marjorie. On va se quitter avec Ghetto Kumbé, un groupe de trip-hop africain, mais qui nous vient de Colombie et qui sera en concert ce soir à la Fiesta des Suds, à Marseille, justement. Ghetto Kumbé dans VMDN sur RFI, et parmi les grands noms qui se produiront ce week-end à la Fiesta des Suds, Woodkid, ce sera d'ailleurs dès ce soir, nos envoyés spéciaux Hortense Vol et Benjamin Sarallier sont sur place, ils nous raconteront tout lundi dans VMDN. Lundi, nous recevrons par ailleurs la romancière Céline Minard qui publie Plasma aux éditions Rivage, et vous m'en direz des nouvelles.